7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, les exilés fiscaux sont-ils des voisins comme les autres? Attention, je ne parle pas des fraudeurs ou des évadés fiscaux qui dissimulent leur fortune, mais de ces chefs d'entreprise qui décident très officiellement de demander un jour au fisc leur bon de sortie et qui quittent la France avec leur capital. Aucun chiffre officiel sur leur nombre et derrière les quelques cas ultra médiatisés comme celui de l'acteur Gérard Depardieu, les exilés fiscaux, bien que parfaitement en règle avec le fisc, parlent rarement de leurs choix, de leurs hésitations, de leurs relations à l'argent, à l'impôt. Pourquoi partent-ils? Où choisissent-ils de vivre? Comment s'organise leur existence? Que regrettent-ils de la France? Nous entendrons des témoignages et l'enquête d'une avocate fiscaliste. Bonjour Manon Sirazek-Laporte.
Bonjour.
Vous publiez Les exilés fiscaux, tabous, fantasmes et vérités. Alors c'est pas un livre qui permet de se faire des amis dans les cercles de gauche, ça c'est sûr. Néanmoins, votre enquête soulève des questions et répond à la curiosité des profanes dont nous sommes. Dans une certaine intimité des riches, nous attendons vos réactions et vos questions, si vous le souhaitez, sur le fil Facebook ou bien notre numéro de téléphone habituel 33 1 84 22 71 71. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage de Xavier Castelli. Il a quitté la France il y a 4 ans pour s'exiler à Genève. Il est l'un des rares à avoir accepté le magnétophone de notre reporter Charlie Dupiot. La plupart avaient la mauvaise idée de se décommander à la dernière minute. Et avec son associé, l'héritier Sébastien Guettant, il est la 224e fortune de France, selon le magazine Challenge. Leur fortune s'élève à 250 millions d'euros.
Xavier Castelli, j'ai 68 ans, j'ai quitté la France en 2010 au moment où je prenais ma retraite d'une entreprise que j'ai créée et développée en France dans le domaine pharmaceutique. Au moment où j'ai décidé de prendre ma retraite, il n'y avait aucune intention de ma part de partir. Et puis, je vois mes conseillers qui me disent « voilà ce que coûte une sortie quand on part en retraite dans votre cas ». Et là, tous les chiffres qu'on m'a annoncés étaient devenus pour moi intolérables. J'aurais payé un ISF annuellement, donc l'impôt sur la fortune, qui, année après année, aurait nettement diminué mon capital et que je n'en vois pas la raison. Puis, j'ai regardé les différents pays qui, eux, sont beaucoup plus tolérants pour des gens comme moi. Ensuite, il m'a fallu 1 an pour convaincre ma femme, qui n'a pas été quelque chose de facile. L'exil fiscal, c'est malgré tout une rupture avec beaucoup de choses. C'est une rupture avec sa famille, les enfants, les amis, et que la soixantaine passée, on ne refait pas complètement toute sa vie, donc on hésite.
Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre femme, au moment où elle hésitait encore?
Ce n'est qu'une question d'argent, de toute façon, il en reste suffisamment. Ça c'était un argument facile, auquel je disais peut-être, mais à quoi sert cet argent? Quand on regarde la manière dont les deniers publics sont utilisés actuellement en France, et comme ça l'était vrai il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec le gouvernement actuel, on n'est pas très enclin de remettre encore au pot. Je prive aussi la génération suivante d'un pactole non négligeable. Mes enfants, je vois pas pourquoi, parce que je n'avais pas le courage de bouger, je les priverais de ça.
Donc votre femme ne voulait pas partir parce qu'elle pensait que c'était pas forcément utile, que vous aviez suffisamment d'argent pour rester en France. Quels autres arguments elle avait?
L'autre argument, c'est que ma femme, qui a 15 ans de moins que moi, avait un très beau job à Paris. Elle est médecin, elle était directeur marketing dans un laboratoire, et partir, c'était aussi quitter un job.
Elle n'était pas encore plus lourde à porter cette décision puisque vous l'imposiez à votre compagne?
Oui, tout le monde a son choix. Ma femme aurait pu dire « si tu pars, je te quitte ». Ma femme a finalement accepté de me suivre, mais ça a été pour elle une épreuve. Mais elle a retrouvé immédiatement un job quand nous sommes arrivés à Genève, puisque je suis parti à Genève. Si j'étais encore actif, je serais parti à Londres, parce que c'est une ville extrêmement dynamique. Avec les Anglais, on peut construire et construire vite. La Belgique, j'avais pas envie de me retrouver dans la banlieue parisienne. C'est une véritable colonie française. avec des gens un peu parqués comme des exilés. Non, à Genève, on est un certain nombre à être là, mais on est mélangé à la population internationale et suisse. Donc on vit tout à fait normalement.
Genève compte un peu moins de 200 000 habitants. C'est 10 fois moins qu'à Paris. C'est l'équivalent d'une moyenne ville de province en France. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Genève ?
La vie culturelle à Genève, elle est loin d'être inexistante. Certainement pas aussi brillante que ce que l'on peut voir à Paris. Mais comme c'est une plus petite ville, vous ne faites pas 2 heures de queue pour rentrer dans un musée comme on le voit aujourd'hui à Paris, où c'est devenu infernal. Quand vous savez qu'en moins d'une heure, vous êtes sur des pistes de ski par rapport à votre habitation, tout ça rend une vie qui n'est pas trépidante, mais où on a des activités.
Vous n'avez pas l'air de vous amuser complètement.
On perd ses amis de base. On se fait des voyages. Ma femme a eu la gentillesse de se mettre à un mi-temps. Donc ça nous laisse l'autre moitié de la semaine pour pouvoir bouger. L'hiver, on est quasiment tous les week-ends en montagne. Je ne m'ennuie pas un instant à Genève.
Vous vivez entre exilés fiscaux ?
Non. C'est des questions qu'on ne se pose même pas à Genève, entre Français et entre Suisses. Un Suisse ne viendra jamais vous poser la question. Le Suisse qui voit des Français se dit bien, tiens, il y a une bonne raison pour laquelle il est venu là. Je dirais qu'il y a une certaine discrétion à cet égard. Le statut fiscal ne compte pas et ne s'évoque pas.
Manon Sierrazek-Laporte, vous êtes avocate fiscaliste, vous publiez « Exilés fiscaux, tabous, fantasmes et vérités ». Comment réagissez-vous à ce témoignage d'exilés fiscaux à Genève ? Genève qui est, pour au dire de certains de vos témoins dans votre livre, un mouroir ou un enterrement de première classe. Tout de même, avec autant d'argent, ne pas choisir finalement le pays dans lequel on a envie de vivre, à savoir normalement la France pour ces gens-là, ça peut sembler assez paradoxal.
Écoutez, à l'écoute de ce témoignage, moi c'est ce que je retrouve parmi les gens que j'ai interviewés. Effectivement, c'est long, la décision est longue à être prise. Le choix est difficile de partir, donc faut pas croire qu'on part comme ça du jour au lendemain. Il faut au moins 6 mois, 1 an pour se décider. Et Genève reste une destination, effectivement un mouroir pour certains, mais
alors c'est vivable, bien évidemment.
C'est vivable, oui. C'est bon, tout ferme à 5 heures ou 6 heures, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus fermé que Paris, mais vous avez une qualité de vie qui est peut-être meilleure qu'ailleurs. Et c'est vrai qu'en Suisse, on ne vous juge pas. Et l'accessibilité est beaucoup plus grande.
Oui, alors néanmoins, s'il n'y avait pas la pression fiscale française, ces exilés fiscaux n'auraient jamais décidé de partir.
Alors pour le cas évoqué, oui, effectivement, c'est l'ISF, à partir du moment où il n'était plus dirigeant d'entreprise, il n'était plus exonéré sur ses biens professionnels, c'est la raison pour laquelle il est parti, c'est pour l'ISF, et puis c'est aussi pour les droits de succession, d'après ce que je comprends. Et si la fiscalité n'avait pas été trop lourde, bien évidemment, je pense qu'il serait resté en France avec sa femme.
Globalement, si on refait la liste de la pression fiscale dont se sentent victimes les exilés fiscaux, donc il y a l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de succession, qu'y a-t-il d'autre ?
Vous avez l'impôt sur les dividendes, vous avez l'impôt sur le capital, l'impôt sur le patrimoine, les taxes foncières qui regroupent bien évidemment l'ISF, vous avez une multiple taxation qui finalement au bout du bout, avec les cotisations sociales, les gens se disent, écoutez, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai créé toute ma vie et je laisse pas grand-chose à mes enfants. Parce que j'ai payé toute ma vie.
Il faut quand même bien qu'on remette les choses en place. Il y a souvent des confusions entre les exilés fiscaux et les fraudeurs fiscaux.
Tout à fait. Le fraudeur, c'est celui qui a dissimulé un compte à l'étranger. On en parle avec HSBC en ce moment, par exemple, ou UBS, ou qui n'a pas déclaré son impôt sur le revenu. Et l'exil fiscal, c'est celui qui part avec toute sa famille, qui prend enfants et bagages, si je puis dire, et qui part ailleurs, et qui n'a pas l'espoir de retour. Ça n'a rien à voir.
Donc il ne s'agit pas d'une dissimulation de fortune.
Il ne s'agit pas d'une dissimulation de fortune. Il s'agit de partir, de régler ses impôts avant de partir et de continuer à payer ses impôts si on a par exemple des loyers qui restent imposables en France.
Alors, il y a un cas qui a évidemment déchaîné toutes les passions en France, c'est le cas Gérard Depardieu, sur lequel vous revenez d'ailleurs assez longuement dans votre livre. En quoi est-il emblématique de la vision française de l'exil fiscal ?
Il est emblématique parce que c'est un personnage extrêmement connu, qui a eu un certain nombre d'aides de crédit de cinéma, et on se dit pourquoi cet homme qui a été adulé, qui fait partie du patrimoine français, est-il parti? Mais je crois qu'il est parti parce que ce n'est pas que fiscal, c'est un ensemble de raisons qui l'ont poussé. Et
c'est un acteur extrêmement populaire en France.
Populaire, hein, tout à
personne
fait.
Personne n'a jamais, remis en cause sa fortune. Il était très aimé.
Il était très aimé, mais je pense que ses ennuis avec la justice avec son fils, ça y a fait aussi. Il en a parlé lui-même. Et puis probablement. C'est peut-être un tout avec l'administration, mais il continue, et c'est le plus important, il continue de payer les impôts en France, parce qu'il a encore des affaires.
Les exilés fiscaux partent sous tous les gouvernements, c'est ce qu'on découvre quand même largement dans votre enquête. Alors, Gérard Depardieu, c'était sous un gouvernement de gauche, après l'arrivée de François Hollande. Néanmoins, le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est un retraité qui est parti depuis 4 ans, donc il est parti sous la droite.
Tout à fait. L'exil fiscal ne date pas, d'ailleurs je le lis dans le livre, il date, j'en ai même parlé dans les années 36, hein, ça a commencé en 34, et puis ça revient régulièrement, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il a existé également dans les années 60, et puis 81, où évidemment pas mal de gens sont partis, mais ça a aussi existé pendant le gouvernement Juppé en 95, et puis dès 2010, ça a un peu accéléré.
À partir de quel moment, dans le fond, chez ces exilés fiscaux, l'impôt est considéré, parce que là il y a une grande part de seuil psychologique, l'impôt est considéré comme confiscatoire, ça c'est le terme technique, mais eux parlent d'un impôt insupportable, c'est le terme qui est employé par notre exilé fiscal à Genève.
Oui, si vous voulez, moi je pense qu'on ne part rarement que pour des raisons fiscales. Il y a une série de clignotants, et puis quand la fiscalité devient trop lourde, trop perplexe, trop instable, là on décide de partir. Le confiscatoire, c'est quand on va dépenser, quand on est assujetti à 75% de ses revenus, ou 80%, toutes taxes comprises.
Oui, là, c'est vraiment en additionnant tout, j'additionne
tout.
Il n'y a pas d'impôt sur le revenu à
75%
à l'heure actuelle.
Mais vous avez l'impôt sur le revenu si vous êtes à la tranche de 45%, plus les cotisations sociales, plus la taxe foncière, plus la taxe d'habitation, plus les 217, contributions.
Mais aucun salarié normal ne compte de cette façon-là.
Non, absolument.
Hein,
il ne compte que l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, c'est un Français sur deux. Et finalement, vous avez des contribuables, par exemple, et souvent les classes moyennes, qui payent beaucoup, beaucoup trop d'impôts par rapport à ce qu'ils devraient en payer. Il n'y a pas que les riches qui sont imposés. They call me Johnny Lonnie, they call me Disco Dave, they call me regardless, that's why I always end up paid. I end up in the shade, taking the humble road. Everything mine was given, everything yours was sold. Everything in is out, everything out is cold. Cold like a Raiders jacket, start a black silver code. That one's for the O. Lindsay told me so. Light skinned and niggas with the fade in the Camaro. We from the west, you know the rest. Y'all seen the videos. Everything here is killer. Everything solid gold. Everything mine is yours. See, I don't own a thing. I let it go, it just comes back like a boomerang. Yeah, she caught me on fire.
jeune, Boomerang chez 7 milliards de voisins sur RFI. Oui, Boomerang, c'est bien nommé peut-être. On parle de la fiscalité des exilés fiscaux aujourd'hui. Qui sont-ils? Pourquoi partent-ils? Quelle est leur relation à leur nationalité, à la France, à l'argent, aux impôts? On en discute avec vous, Manon Sirazek-Laporte. Vous êtes avocate fiscaliste. Alors évidemment, vous défendez vos clients, mais avec une certaine déontologie et neutralité en ce qui concerne votre volonté de nous expliquer finalement la loi, la fiscalité française. On a, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, une administration fiscale, une grande instabilité fiscale. Ça, c'est parfaitement objectif. Néanmoins, on a une des administrations fiscales les plus performantes au monde, hein. Alors, c'est ce qu'appellent vos témoins, ceux qui se sont livrés dans votre livre, ces exilés fiscaux. Une administration fiscale jugée insupportable, hein, qui fait des contrôles tout le temps. Néanmoins, c'est aussi une forme de performance. Vous, c'est pas comme ça que vous le voyez?
Écoutez, je pense qu'à partir du moment où on déclare ses impôts, on a un système déclaratif, il faut un contrôle. Ça, c'est le minimum. Cela étant, moi, j'ai des clients qui sont contrôlés systématiquement. Je parle même d'une personne, un dirigeant d'entreprise qui est parti aussi à Genève, qui a fait l'objet de 26 contrôles.
Ouais. Enfin, c'est normal qu'on soit plus contrôlé qu'un salarié.
Ah bah, les salariés,
les salariés, ils
sont pas du tout concernés. Mais là, on est en train de rentrer dans la fraude, hein. Ils sont pas contrôlés tout simplement parce que l'employeur, on arrive à retrouver ce que le salarié a déclaré chez l'employeur.
Alors, vous le disiez, l'exil fiscal n'est absolument pas une fraude fiscale.
Absolument.
Quand on part, on paye un bon de sortie, en gros, à l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'on fait un gros chèque.
Non, pas forcément un gros chèque. On paye l'exil tax.
Vous dites que c'est quand même, il faut quand même être très riche pour que ça soit rentable de partir assez riche.
Si vous gagnez 2000 euros par mois, effectivement, c'est pas rentable le temps d'aller trouver une maison ailleurs, parce que souvent le niveau de vie est plus élevé ailleurs. Hein. En Suisse, c'est pas les mêmes prix, à Londres non plus. Donc il faut suffisamment d'argent. Mais on constate qu'il faut moins d'argent qu'avant. C'est une espèce de démocratisation, même si le terme n'est pas très adéquat.
Pourquoi moins d'argent qu'avant? En quoi, par exemple?
Parce que au départ, qu'on voyait en 81, c'était des vraies fortunes qui partaient. Je pense à la TECOR, par exemple. Ils partaient pas forcément pour des raisons fiscales, mais c'était des grosses, grosses fortunes françaises. Et puis, petit à petit, on a vu se développer d'autres types de clients, si je puis dire, c'est-à-dire des professions libérales, des dentistes, des médecins, des avocats, qui partent parce que la pression fiscale et sans doute d'autres éléments font que on préfère partir plutôt que de rester, que de garder ses amis et d'avoir une vie sociale en France.
Même si on avait envie de bâtir sa vie en France. Alors, il faut peut-être rappeler les règles de l'exil fiscal quand on est citoyen français. C'est d'abord le lieu de résidence.
Hein. Le lieu de résidence.
C'est-à-dire le 183 jours devient une obsession.
Oui, alors c'est plus compliqué que ça. C'est effectivement 183 jours, mais c'est surtout le lieu où habite la famille, le foyer fiscal, le lieu où on a son centre de ressources économiques, là où on gagne sa vie, là où on a des revenus, là où on a sa famille. Et si vous voulez, même si on est parti plus de 183 jours, l'administration fiscale peut requalifier cette domiciliation et dire, mais attendez, vous n'êtes pas divorcé, votre fille sont scolarisés en France, et là, forcément, vous aurez un contrôle fiscal et vous serez redressé à l'impôt français.
On risque quoi? L'exilé fiscal qui ne respecte pas les règles et qui passe plus de 183 jours en France alors qu'il ne le devrait pas?
Alors à ce moment-là, ça devient de la fraude fiscale, c'est de la dissimulation, si vous voulez, c'est l'illusoire, hein, c'est l'exilé, le faux exilé fiscal. Et là, ce sont des poursuites éventuellement pénales et ce sont des redressements avec des pénalités assez lourdes et donc un risque.
Ça veut dire que l'exilé fiscal, il doit tout conserver en permanence, parce que il y a des témoignages dans votre livre de gens qui gardent tous les tickets de caisse, tous les tickets de carte bleue, etc., qui prouvent les factures d'électricité, de consommation d'eau, etc., qui prouvent qu'ils sont bien sur place, c'est-à-dire hors de France.
Hors de France, tout à fait, parce que la Direction nationale des vérifications de fiscales, la DNVSF, qui est un service qui est chargé plus particulièrement de surveiller les gens qui partent, regarde plus précisément les jours où les gens évidemment plus connus sont en France ou sont à l'étranger. Donc ils font une espèce de décompte de jours et c'est à vous de démontrer finalement que vous êtes plus à l'étranger qu'en France.
Ouais, il faut avoir quand même envie.
Il faut tout garder, y compris les factures d'électricité.
Qui a dit que les riches n'avaient pas de problème? On va y revenir, bien évidemment. Vous restez avec nous, Manon Sirazek-Laporte. On va parler aussi de l'image que dégagent les exilés fiscaux pour la France. Qui sont ces exilés fiscaux? Pourquoi partent-ils? Où s'installent-ils? Dans quel pays? Et quelle est leur relation à la France et à l'argent? À suivre juste après le flash. On aura un autre témoignage, le cas d'un couple jeune avec enfant et seulement un gros salaire en guise de désir d'exil fiscal. On en en parle dans un peu plus de 3 minutes. Restez avec nous chez 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, le flash sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Nous parlons de tout dans cette émission du lundi au vendredi, en tout cas de tout ce qui peut susciter la discussion ou l'étonnement. Aujourd'hui, les exilés fiscaux, qui sont ceux qui quittent la France pour raison fiscale en toute légalité. Vous pouvez réagir ou questionner notre invité Manon Sirazek-Laporte, avocate fiscaliste, qui publie « Exilés fiscaux, tabous, fantasmes et vérités ». C'est un livre très didactique, Manon Laporte, mais qui évidemment se garde de tout jugement sur les choix des exilés fiscaux, dont une partie sont vos clients. Alors, combien sont ces exilés fiscaux? Vous avez cherché à savoir, en France, on a une administration fiscale excessivement performante, on a l'Institut National de la Statistique, un des meilleurs services au monde de la statistique, et vous nous dites dans le livre, ben non, on ne sait pas combien il y a d'exilés fiscaux.
Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas. En tout cas, j'ai tapé à plusieurs portes, y compris aux affaires des ministres, enfin au ministère des Affaires étrangères, à Bercy, et personne n'a été capable finalement de me dire exactement le nombre d'exilés. Alors, on me parlait de 700 personnes parce qu'ils n'avaient pas fait de déclaration à l'ISF, mais ce nombre est totalement insuffisant puisqu'il n'y a pas que ceux qui sont à l'ISF ou ceux qui sont exonérés d'ISF qui partent. Donc, il faut plusieurs critères pour mettre en place un indicateur ou un observatoire pour savoir exactement qui part. Et Gilles Carrez non plus n'a pas pu avoir les chiffres.
C'est ça, ça veut dire qu'on n'a pas... Alors Gilles Carrez, peut-être, petit rappel, qui est Gilles Carrez.
Oui, pardonnez-moi, c'est le président de la commission des finances qui a lui-même enquêté et finalement qui n'a pas su dire combien
exilés. Bercy devrait pouvoir donner le nombre de Français chaque année qui payent le bon de sortie, ce qu'on appelle l'exit tax, pour quitter le territoire français en termes de domiciliation fiscale.
Oui, mais l'exit tax, finalement, n'est qu'un indicateur. Il s'agit de payer la plus-value latente, c'est-à-dire la plus-value qu'on aurait faite si on quittait le pays. C'est une plus-value lorsqu'on vend des titres. Donc, ce n'est que partiellement un problème. Vous avez des gens qui n'ont pas de société, qui partent et qui créent. Par exemple, en Belgique, c'est le cas de 2-3 personnes que j'ai citées, qui ont vendu avant l'exit tax et qui recréent de l'économie ou de la croissance ailleurs. Et c'est là, à mon avis, le plus dangereux.
Les exilés fiscaux, d'ailleurs, se reconnaissent-ils volontiers dans cette étiquette? Parce que, on le sait, ils sont partis d'abord pour des raisons d'argent, mais ils disent tous, c'est pas la seule raison. Donc finalement, est-ce qu'ils acceptent l'étiquette d'exilé fiscal?
Ils l'acceptent de plus en plus parce que ce n'est presque plus un sujet tabou. Ça l'était il y a quelque temps, et puis on en a tellement parlé, ça a tellement été médiatisé que j'observe que les gens parlent volontiers, y compris dans les dîners, qu'ils partent.
Certains types de dîners, hein, précisons.
Oui, c'est certains types de dîners, mais vous avez quand même des cadres dans les banques, et pas que des gestionnaires de fortune ou des gens riches qui partent. Des étudiants qui veulent partir aussi à l'étranger, la famille qui rejoint leurs parents.
Oui, alors là,
parents.
On n'est plus dans le cas des exilés fiscaux, hein, néanmoins. Mais effectivement, on peut partir pour des raisons économiques. C'est pas tout à fait la même chose.
Ça s'appelle l'exil économique, qui suit peut-être l'exil fiscal.
Oui, c'est ça. Ça rejoint l'exil des pauvres. C'est assez, d'ailleurs, surprenant. Hein. La France connaît-elle, en toute objectivité, une hémorragie d'exilés fiscaux ou pas ces dernières années?
Parce que c'est une question qui fait débat. Qu'est-ce que vous appelez comme hémorragie? L'hémorragie, elle dure depuis longtemps. Je ne pense pas que ça soit depuis les années 2010. Ça a toujours été, il y a toujours eu un exil. Par contre, il s'est accentué en 2010. Et moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que les étudiants partent volontiers à l'étranger faire un stage et demandent un premier emploi à l'étranger et qu'ils ne reviennent pas. Donc, effectivement, il y a des ressources, il y a des dommages collatéraux très importants parce qu'on ne consomme plus, on ne crée pas d'entreprise en France.
Oui, mais c'est pas l'exil fiscal.
Les exilés fiscaux,
que vous êtes finalement plus prudente que tous ces métiers autour de la relocalisation fiscale, les gens qui s'occupent des déménagements, les gestionnaires de fortune qui vous installent en quelques clics à Bruxelles, qui eux disent on fait un carton, on n'a jamais autant de clients. Vous êtes plus prudente qu'eux?
Parce que je déménage pas les exilés fiscaux, c'est sans doute pour ça que je suis plus prudente qu'eux. Non, parce que je pense que c'est un phénomène difficile à appréhender, qu'il faut interroger les consulats, qu'il faut interroger les lycées français et qu'il faut aller interroger l'ensemble des gestionnaires de fortune et avocats et notaire pour savoir exactement quel est le nombre de départs. Donc je ne peux pas, ça serait mentir de vous dire oui, il y a 100 personnes par jour, 200 personnes. C'est vrai que c'est un phénomène qui s'est accentué, mais vous dire précisément le nombre, j'en suis incapable.
Alors, vous le dites dans votre livre, le lycée français de Londres craque, le lycée français de Singapour craque, le lycée français de Bruxelles craque, mais c'est aussi parce que les carrières s'internationalisent, quelle que soit la fiscalité.
Tout à fait, les carrières s'internationalisent, on propose systématiquement des masters à l'international, et il y a une mondialisation qui fait que les gens partent
voilà,
volontiers
à l'étranger. Il y a un cadre pour faire carrière,
bien
il faut
sûr,
qu'il y ait des expériences à l'étranger, quelle
exactement.
Que soit la fiscalité de son pays d'origine.
Tout à fait.
Alors à quoi ont renoncé les exilés fiscaux? Retour sur le cas de Xavier Castelli qu'on a entendu en première partie, 224e fortune de France, retraité à Genève depuis 4 ans. Il n'avait pourtant pas du tout envisagé sa retraite de cette façon-là.
Mes enfants s'étalent entre 40 et 25 ans. On garde bien sûr le contact, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, étant à Genève, c'est ce qui nous manque le plus. On a des amis qui se sont exilés pour des raisons similaires. L'île Maurice, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment. Pour nous, il n'en est pas question. C'est trop éloigné. On commence à avoir nos premiers petits-enfants. On a envie de voir grandir nos petits-enfants.
Et vous ne les voyez pas vraiment grandir, finalement?
Il y a des vacances. Bon, on s'aperçoit que tous nos enfants se mettent à faire plus de ski qu'ils ne faisaient auparavant. Donc, ils viennent souvent de notre côté. Mais c'est clair que cet exil fiscal casse un peu les familles. Mais à l'âge de 60 ans, je commence à imaginer ma retraite. Et à ce moment-là, je me suis créé un centre familial autour du bassin d'Arcachon en me disant « je vais y passer la moitié de mon temps entre Paris et le bassin d'Arcachon ». Ça prouve que j'étais pas si mal que ça en France.
Un centre familial, c'est-à-dire?
C'est-à-dire un endroit où les enfants qui grandissent, qui commencent eux-mêmes à avoir des enfants, puissent se dire, on se réunit une fois par an, deux fois par an. Je l'ai créé, j'ai fait beaucoup de travaux en me disant, encore quelques années, et puis je m'y installe.
Donc c'est un rêve qui a été brisé?
Absolument. Pas complètement, mes enfants en profitent, moi un petit peu, mais c'est plus pareil. Cette maison a un peu perdu une partie de son âme. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné tel que je l'avais prévu. Ça, c'est vrai. Voilà. Bon. Mais j'en ai fait mon deuil. C'est du gâchis. Mais bon, il y a un moment, la raison prend le pas sur le sentiment. Et j'ai fait transporter mon rêve à Genève.
C'est paradoxal d'avoir de l'argent et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut.
Vous avez raison. Quand on prend des décisions, il faut en accepter les tenants et aboutissants. C'est comme dans un divorce. Quand vous divorcez, vous ne quittez pas que de la misère. Il y a eu de très bons moments, il y a de très belles choses, mais vous coupez tout cela. Ben, en prenant ma décision de partir en Suisse, je me suis coupé d'un certain nombre de choses, dont mon projet de la maison d'Arcachon. C'est comme ça.
Moi, j'ai quand même un peu l'impression que s'exiler, c'est se faire du mal.
Moi, je le vis pas comme ça. Pour moi, les chiffres que l'on m'a donnés étaient insupportables.
C'était plus insupportable que tout le reste, que le fait de quitter sa vie, de quitter ses enfants.
Oui. En plus de ça, me connaissant, si je n'avais pas pris cette décision, chaque année, quand j'aurais reçu le coup de couteau dans le dos, je m'en serais voulu.
Comment vous vivez le fait d'être en dehors de votre pays, c'est-à-dire qu'avec votre statut, vous ne pouvez pas y rester plus de 6 mois, plus de 183 jours, et d'être en même temps pas forcément intégré en Suisse.
J'y réfléchis pas tous les matins en me levant. Ben d'abord, parce qu'on est déjà dans un pays, on parle la même langue, hein, à Genève. Je me sens, je sais pas si on peut parler de passage, parce que si c'est passage, ça veut dire qu'on va ailleurs. En France, gagner de l'argent, avoir réussi dans les affaires, d'un seul coup, on vous soupçonne. Je n'ai aucun plan de retour. Moi, ça ne me dérange pas de me considérer comme un exilé, parce que ça ne me dérange pas de me considérer comme quelqu'un qui a réussi et qui a développé une entreprise qui marche toujours très bien. Le jour où la France évoluera différemment, où elle ne cherchera pas à surtaxer les gens qui ont réussi, je reverrai peut-être ma position. Mais j'aurai à reprendre la décision aujourd'hui. Je la prendrai sans hésitation.
Manon Laporte, un commentaire de l'avocate fiscaliste que vous êtes.
Oui, mais je pense que il s'agit plutôt d'une question de transmission aux enfants, parce que les droits de succession en Suisse sont beaucoup plus allégés que ceux en France, que ceux de France. Donc, il y a quand même une raison fiscale très nette qui l'a poussé à partir.
Il faut bien préciser ce que vous expliquez bien dans votre livre. Quand on est un exilé fiscal, qu'on arrive en Suisse, en fait, on va directement négocier avec le fisc.
Oui.
C'est vraiment un jeu de marchand de tapis, là.
Oui, enfin, je dirais plutôt une contractualisation. Ouais. C'est un impôt sur la dépense. On va négocier, on prend un avocat sur place, et on négocie avec le fisc, le prix qu'on va payer pour vivre en Suisse. Et selon ses dépenses, alors il y a toute une série de critères, et ça peut être 5 fois la valeur locative de son habitation, donc ça va dépendre un peu, mais effectivement, en contrepartie, il n'y a pas autant de droits qu'en France.
Quels sont les pays aujourd'hui qui ont la faveur des exilés fiscaux français?
Alors ça dépend de la catégorie des exilés français. Pour les retraités, c'est le Maroc, c'est le Portugal de plus en plus, et c'est aussi l'île Maurice. Pour les entrepreneurs,
pourquoi?
Parce que si vous voulez, les revenus, les pensions de retraite sont exonérées d'impôt sur le revenu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne payent pas d'impôt sur le capital. Il y aura une retenue à la source qui se fera en France de 15%. Donc on paye quand même des impôts en France, mais on ne payera pas d'impôt sur le revenu.
Intéressant si on a de gros retraite.
Absolument. En ce qui concerne les entrepreneurs, ça va plutôt être en Belgique, plutôt à Bruxelles, puisqu'il n'y a pas d'ISF et il n'y a pas de plus-value quand vous vendez vos parts. Donc vous créez une société là-bas et vous la vendez là-bas, et donc vous serez exonéré d'impôts. Alors qu'en France, on arrive quand même à 62% environ. Évidemment, ça fait un écart important. Ensuite, il y a des pays comme Londres, par exemple, qui est une ville extrêmement dynamique, comme le rapportait le témoignage, où on voit des indépendants, alors des banquiers, par exemple, d'abord, il y a moins de chômage, il n'y a pas qu'une question de fiscalité, et puis il y a surtout le statut de non-résident, c'est-à-dire remittance basis, qui fait que quand on gagne de l'argent ailleurs et que l'argent n'est pas rapatrié, il n'est pas imposé à Londres. Et ça, c'est un point important.
Est-ce qu'il y a des exilés fiscaux qui quittent d'autres pays que la France ?
Oui, probablement. Vous avez des retraités suisses qui viennent en France. D'ailleurs, je l'expose dans mon livre. Ça veut dire que quelque part, on est peut-être le paradis fiscal d'un autre pays à chaque fois.
Et notamment des Qataris, c'est ça ?
Absolument, des Qataris.
Non, mais par exemple, il y a des exilés fiscaux américains, puisqu'on sait que c'est pas le même système avec les États-Unis. Si vous avez la citoyenneté américaine, que se passe-t-il ? Vous la gardez à vie pour l'administration fiscale américaine ?
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la nationalité américaine, et votre pays de résidence, vous payez de l'impôt aux États-Unis.
Vous ne payez pas un bon de sortie comme les Français ?
Non, vous payez... Là où vous êtes installé, vous payez de l'impôt aux États-Unis. C'est le seul pays où je connaisse qui ait ces règles.
Principe de la nationalité,
principe,
pas de la territorialité.
C'est l'impôt lié à la nationalité.
Ouais. Sauf qu'on paye beaucoup moins.
Voilà. Alors on peut pas tout avoir. Il faut choisir.
Oui, vous parliez de Londres et vous nous disiez précédemment avant le flash que les exilés fiscaux ont tendance à être de plus en plus jeunes et pas forcément très fortunés. L'exil fiscal, comment le vivent donc les familles avec des enfants jeunes? Charlie Dupuis a rencontré l'épouse d'un exilé dont le statut est assez difficile à définir. C'est un cas d'ailleurs très révélateur. Il fait partie de la direction d'un grand groupe français qui s'est en partie délocalisé à Londres, officiellement parce que la part de son chiffre d'affaires réalisé en France est de moins en moins importante. Mais derrière tout cela, il y a bien sûr des avantages en termes de fiscalité. L'entreprise a donc proposé à une partie de ses cadres très supérieurs de s'installer à Londres en mettant des maisons de plus de 400 mètres carrés à leur disposition et d'autres aides à leur installation. Une épouse raconte anonymement.
Nous avons pris la décision de quitter Paris il y a 1 an et demi maintenant, suite à la délocalisation en fait du siège de l'entreprise où travaille mon époux. Nous l'avons annoncé à nos 2 enfants adolescents. Ils avaient 12 et 16 ans quand on leur a annoncé, donc c'est l'époque où on a des copains. On a ses repères en France depuis longtemps, ils ont toujours vécu à Paris, donc c'était compliqué pour eux d'envisager d'abandonner tout ça. Mon fils était plutôt partant, autant notre fille a été assez réticente. Donc l'année dernière a été un petit peu compliquée pour elle à cause de ça. Elle était un petit peu en opposition, mais...
Qu'est-ce qu'elle vous disait ?
C'est pas ma vie, vous me donnez une vie pourrie, j'ai perdu mes amis, mes vrais amis sont à Paris, ma famille est à Paris, ma vie est à Paris. Voilà, c'était...
Et là, on sent comment ?
quand on est parent.
Très coupable, c'est atroce. Mais on a tenu bon.
Vous auriez pu, vous, rester habiter à Paris et votre mari faire l'aller-retour à Londres. C'est pas si loin, finalement.
Alors, effectivement, c'est ce qu'il avait, lui, envisagé pour essayer de limiter un petit peu le stress familial. Mais c'est moi qui n'ai pas voulu. C'était soit on reste tous les quatre, soit on part tous les quatre. Mais c'était pas un sur quatre.
On peut se douter que l'entreprise pour laquelle travaille votre mari a pu aussi choisir de venir s'installer à Londres, installer son siège à Londres, notamment parce que c'était avantageux pour eux.
Oui, oui, aussi. Bah, c'est pas négligeable, oui, oui, bien sûr.
Et finalement, est-ce que ça ne vous arrangeait pas aussi en termes de fiscalité et d'impôts à payer ?
Il y a un double effet, en fait. Il y a un effet côté entreprise, un effet côté salarié. Mais en revanche, on paye le même impôt, le même niveau d'impôt.
Donc on est mieux payé en Angleterre ?
Pour un même niveau de salaire, oui. C'est intéressant, ça l'est encore plus pour l'entreprise. Mais c'était pas négligeable pour le salarié.
D'où peut-être le fait que Londres soit une destination idéale pour des gens qui travaillent encore et qui veulent s'exiler fiscalement.
La Suisse et la Belgique conviennent plus à des rentiers. L'Angleterre convient peut-être davantage à des personnes qui sont salariées, qui se trouvent du coup avec des charges sociales moins élevées. Donc le profil, effectivement, je pense, des gens qui viennent à Londres pour des raisons fiscales, c'est qu'ils ont un profil de salarié et qui continuent à avoir des revenus réguliers d'une entreprise.
Comment on vit le fait de devoir suivre son mari dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, même si ce n'est qu'à 2 heures de train? Comment vous, vous l'avez vécu?
Je me suis sentie très seule. On a fait venir beaucoup de copains régulièrement pour compenser. Et je pense que d'ailleurs, des quatre, ça a été pour moi le plus difficile parce que, encore une fois, mon mari se retrouvait dans un environnement professionnel qui lui était acquis. Mes enfants se sont retrouvés 2 jours après leur arrivée à l'école à se faire des copains immédiatement. Eux se sont reconstruits très rapidement une vie avec un entourage très rapidement. Et pour moi, que ça a été effectivement, oui, compliqué.
Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type de votre quotidien à Londres depuis que vous y êtes installée ?
Qu'est-ce qu'on fait ? Ben on se lève, voilà, on prend le petit déjeuner tous ensemble. Les enfants et mon mari partent travailler. Et là, je me colle à mon ordinateur avant de regarder ce que je dois faire pour la journée, les personnes que je dois rencontrer, etc. Et donc, je m'organise. Et sinon, je choisis un quartier au hasard que j'explore de long en large avant de rentrer, faire un exposé au reste de la famille en leur disant « C'était très bien, donc ce week-end, ça fait partie des choses que je veux vous emmener voir. » Voilà.
Et avant de partir à Paris, c'était quoi votre journée type ?
Mes copines ! Je ne travaille plus depuis 6 ou 7 ans, mais j'avais un nombre considérable d'amis à voir régulièrement, donc ça ne se posait pas dans les mêmes termes. Et c'est vraiment ça qui m'a fait défaut à Londres en arrivant. Le contraste était saisissant entre beaucoup et plus rien. L'année dernière, je reconnais que j'avais un poids en me disant, oh là là, encore une journée seule, mais là, franchement, c'est plus du tout le cas. Il y a eu, on va dire, l'année 0 et l'année 1, là, où je pense qu'on sera vraiment bien tous les quatre. Ouais.
Manon Siarazek, La Porte, est-ce qu'il s'agit là d'un nouveau type d'exilés fiscaux, ce qu'on vient d'entendre?
Probablement oui, parce qu'il y a de plus en plus de cadres dirigeants qui finalement décident de partir parce qu'il y a une délocalisation d'entreprise et qui préfèrent partir et suivre leur entreprise. Il y en a à Londres, mais aussi il y en a à Singapour. Et
alors ils partent pas avec leur fortune, hein, ceux-là. Ils n'ont pas encore bâti.
Ils n'ont pas encore bâti. Ce sont des gens en général entre 35 et 40 ans ou 45 ans, des cadres dirigeants ou des cadres supérieurs et qui préfèrent effectivement partir et profiter des avantages et de la meilleure qualité de vie qu'ils ont ailleurs.
Des avantages fiscaux.
Des avantages fiscaux.
Parce que là, alors pour un cadre dirigeant, pour un très haut manager, être employé dans un grand groupe à Londres, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a des avantages en nature probablement. Il a accès peut-être à un chauffeur, à une voiture, à une résidence qu'on lui donne. Donc, une vie beaucoup plus agréable.
Ça veut dire surtout moins de charges sociales.
Mais beaucoup moins aussi, beaucoup moins. Alors, sur le plan strictement fiscal ou social, c'est beaucoup moins de charges sociales, effectivement. Ouais.
En termes d'impôt sur le revenu, quand on est à Londres, ça change quoi par rapport à la France ?
À Londres, vous avez un impôt qui est un petit peu moins élevé, mais qui reste quand même élevé. Hein. L'impôt sur le revenu est important. Hein. Oui. La qualité de vie se paye également. Et puis vous avez aussi le système de sécurité sociale qui n'est pas celui de la France.
Alors, ceci dit, ces exilés fiscaux, on le voit bien, c'est pour ces jeunes exilés fiscaux qui sont tirés par les délocalisations et des délocalisations de groupes qui s'installent là au gré des conventions internationales. Ça nous fait penser un peu au scandale du Luxembourg, très médiatisé en ce moment. Pour vous, c'est un autre problème hein, ou c'est lié au cas des exilés fiscaux, finalement? Parce que derrière, il y a des hommes et des femmes.
Oui, mais le cas du Luxembourg, c'est des sociétés qui font de l'optimisation fiscale agressive et ce n'est pas de l'exil. On ne part pas au Luxembourg, on ne part pas s'installer au Luxembourg. Il s'agit de sociétés qui ont conclu un rouling holding, un agrément avec l'administration fiscale luxembourgeoise. Et ça, ça n'a rien à voir avec des personnes physiques ou des gens qui se délocalisent avec leur famille.
D'ailleurs, en ce qui concerne les pays qui ont la faveur des exilés fiscaux, on a cité donc la première communauté, c'est quand même Genève. Hein, c'est quand même les Français en Suisse.
Alors, en Belgique.
Genève, enfin, il me semble
oui,
que
c'est vrai que la première destination, hein. Oui, la première destination,
Bruxelles
c'est
derrière.
C'est Suisse.
Mais alors, toutes raisons confondues, hein. Pas forcément, il y a pas que les exilés fiscaux là-dedans, puisque pour cause, on ne sait pas combien ils sont. Bruxelles, effectivement, Londres, le Luxembourg ne figure pas dans la dream list des exilés fiscaux.
Non, a priori, c'est plutôt pour y construire, pour y créer une holding, c'est plutôt pour une entreprise, mais des gens qui s'exilent vraiment au sens exilés fiscaux, moi j'en connais pas. D'ailleurs, tout est fermé à 17h, hein, donc a priori, on doit beaucoup s'ennuyer au Luxembourg.
Ouais, mais ça, preuve que quand on a beaucoup d'argent, on peut accepter de s'ennuyer. C'est ce que disent finalement tous les témoignages.
Luxembourg, c'est encore pire que je
Alors, je vous avais rencontré de nombreux exilés fiscaux. Ils ont accepté de vous parler, d'ailleurs, parce qu'ils savaient que vous étiez quand même acquis à leur cause. Mais ils se sont beaucoup livrés, c'est vrai.
Non. Oui, ils se sont livrés, mais parce que je ne portais pas de jugement moral. Il n'y a pas que mes clients que j'ai pu interviewer. Et moi, j'étais là pour examiner un fait objectif. Pourquoi ils partaient? Qu'est-ce qui allait pousser à les revenir? Quelles étaient leurs raisons? Moi, je venais pas en faire de l'éthique ou du jugement moral ou voilà. Je
Alors,
venais
justement,
en tant qu'observatrice.
Il faut qu'on en parle quand même de la question morale. Elle est au centre de la mentalité française. La question morale, l'image des exilés dans la société française. On y revient tout de suite.
7 milliards de voisins. Nous avons maintenant une Lucam. Voisins, voisines. On est ensemble. Et puis, on va se parler. On va se dire la vérité.
Ces exilés fiscaux, donc, ils se sont livrés à vos questions, Manon Sirazek. Ils disent beaucoup, bon, on est parti pour des raisons financières, des raisons fiscales. On est parti aussi pour d'autres raisons. Pour nous, la France est une sorte de repoussoir aujourd'hui. Que veulent-ils dire?
Repoussoir parce que c'est surtout l'instabilité fiscale et l'instabilité juridique. Les lois changent en permanence. Le Code général des impôts a 400 pages. La doctrine fiscale, c'est-à-dire les instructions de l'administration fiscale. Vous avez, tout est très compliqué. Le fait de créer une société, le fait de payer des impôts, le fait de faire des déclarations, c'est un empilement, c'est de l'administratif en permanence qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Et d'ailleurs, François Hollande s'y est employé puisqu'il prévoit la simplification administrative. Donc c'est bien que là, il y a un problème.
Mais quand on leur pose la question morale, eux la renversent, la question éthique, et disent, mais non, au contraire, c'est parce que je suis éthique que je suis partie. C'est quand même assez surprenant comme façon de raisonner, non?
Éthique parce que je suis partie? Non, j'ai pas vraiment entendu
l'injustice,
ça.
L'injustice, c'est sur nous qu'elle tombe.
Oui, l'injustice, parce qu'ils ont l'impression d'être pourchassés. C'est un sentiment, hein, que je ne juge pas, d'être toujours pourchassé, d'être critiqué en permanence, on ne les aime pas parce qu'ils gagnent de l'argent, on n'aime pas les riches, ça a été à plusieurs fois dit, donc à plusieurs reprises, et ils se sentent finalement exclus de la société.
Ils se sentent exclus de la société, mais tous les sociologues l'ont prouvé, les riches s'excluent d'eux-mêmes, vivent dans une bulle, d'abord parce qu'ils recherchent l'efficacité, la rapidité et le confort, donc on sent bien d'ailleurs dans leur témoignage que vous livrez dans votre livre qu'ils sont absolument déconnectés des réalités de leur pays, des réalités sociales.
Oui, ils sont déconnectés parce que ils font effectivement, c'est pas un simple salarié qui va partir. Ce sont des gens qui partent quand même à partir de 2 millions d'euros. Donc tout le monde n'a pas 2 millions d'euros. C'est quand même réservé à une certaine élite, l'exil fiscal.
Mais c'est vrai qu'ils se replacent jamais dans la société en tant que citoyen, dans la société française. Ils s'expriment jamais sur l'augmentation des inégalités sociales et financières, mais ils se posent eux en tant que machine gagnante pour l'économie française. C'est pas tout à fait la même chose.
Oui, mais ils se disent qu'ils ont payé, qu'ils ont créé des emplois, qu'ils ont suffisamment payé et que c'est toujours eux qui payent. Et donc, finalement, oui, ils disent qu'ils ont assez payé pour le service et qu'il y en a d'autres qui en profitent sans payer autant.
Alors justement, on a des messages sur le fil Facebook. Franck, par exemple, à Douala, qui nous dit « Lorsqu'il y a fuite fiscale au détriment de la France et en faveur des pays, qui perd, à votre avis, c'est la France ?» Ou encore El Mamadou, qui est à Durbel, au Sénégal. « C'est quand même dommage que des citoyens qui ont toute leur vie durant été au service de leur patrie soient contraints de quitter leur pays pour fuir des charges fiscales énormes. » Vous tentez de poser la question « Comment est-ce qu'on peut chiffrer les pertes pour la France, pour ces exilés fiscaux ?» C'est une question à laquelle il est difficile de répondre.
Il est difficile de répondre, mais je pense que Christian Saint-Étienne s'était posé les questions et l'avait évalué à plusieurs milliards d'euros.
Christian Saint-Étienne
qui est économiste. Et donc,
juste si on regarde les chiffres que rapporte l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est moins de 1% des recettes fiscales. Donc, quand l'ISF part, c'est quand même pas un trou dans le déficit public.
Je ne pense pas que la réalité, ce soit l'ISF, malgré ce qu'on dit. Je pense que c'est
Même s'ils en parlent tout le temps eux-mêmes.
Et même si ils parlent de l'ISF, puisqu'il y a beaucoup d'exonérations sur l'ISF, donc on essaie de la vider de sa substance, je pense que c'est la multiplication des impôts plus l'insécurité fiscale, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir, le changement sans cesse et la rétroactivité des lois fiscales. C'est-à-dire que les lois, finalement, vous êtes dans une situation et cette situation peut changer du jour au lendemain parce que le législateur a changé les règles.
Vous avez fait partie, sous Nicolas Sarkozy, d'une cellule de dégrisement pour faire rentrer des riches. Ça a très moyennement marché. Que faudrait-il pour que les exilés fiscaux aient envie de rentrer? Non, mais quand on leur pose la question à quel seuil vous accepteriez de rentrer, ils sont incapables de répondre avec des chiffres.
Oui,
ils savent si bien les manier.
D'abord, je n'ai pas fait partie de cette cellule de régularisation. J'ai aidé, comme tous les avocats, ils ont été invités par Eric Woerth à servir, si vous voulez, d'intermédiaire pour faire rentrer l'argent. Donc nous, on a été très pédagogues. Et comme quoi, les avocats sont pas toujours des fraudeurs. Vous voyez, ils aident aussi au recouvrement de l'impôt. Et donc, on a été voir les clients. On a dit, bon, écoutez, on vous propose de revenir à des conditions très acceptables, sans poursuite pénale, revenez, et ça se passera bien. Il y a quand même eu des rentrées fiscales, alors je pense que c'était 5 ou 7 milliards, mais effectivement, par rapport aux régularisations qui s'effectuent maintenant, elles sont bien moindres.
Merci beaucoup, Manon Sirazek-Laporte, d'avoir été parmi nous chez 7 milliards de voisins aujourd'hui. Avocate fiscaliste, vous publiez « Exilés fiscaux, tabous, fantasmes et vérités » aux éditions du Moment. À demain chez 7 milliards de voisins.